Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le bilan spatial de l'année 2020 qui est très riche. On aurait pu s'attendre à une année ralentie du fait de l'apparition et de la dissémination rapide du coronavirus. Mais il n'en est rien. Certes, certains acteurs ont souffert plus que d'autres de la pandémie, mais le secteur spatial dans son ensemble a passé 12 mois très prolifiques. Commençons du côté des statistiques de lancement. De janvier à décembre, 114 fusées ont tenté d'atteindre l'orbite, soit 12 de plus qu'en 2019 et autant qu'en 2018. Tout porte à croire que sans la crise sanitaire, ce chiffre aurait été encore plus élevé. La tendance haussière du nombre de lancements qui se dessine depuis 15 ans continue donc, et il est fort possible qu'on dépasse les 120 tentatives en 2021. Le record à battre date de 1967, une année qui a comptabilisé 139 tentatives de lancement en 12 mois. Il sautera probablement au cours de la décennie, vu le nombre de lanceurs actuellement en développement. Le point noir des statistiques de lancement de 2020, c'est le nombre d'échecs. Sur les 114 tentatives, seuls 104 sont parvenus à atteindre l'orbite. Les 10 échecs concernent différents lanceurs et ont principalement eu lieu en Chine et aux États-Unis. Presque 9% d'échecs, c'est là aussi une statistique qui nous renvoie à la course à l'espace des années 60, mais pas pour les bonnes raisons. C'est en partie dû à l'arrivée de nouveaux acteurs, comme Astra ou Virgin Orbit, qui ont échoué dans leur première tentative de lancement orbital. D'autres lanceurs ont tout de même réussi leur premier vol, comme la Longue Marche 8 chinoise et le nano-lanceur iranien KZ. Si on regarde les lancements pays par pays par rapport à 2019, on constate que l'Europe et la Russie ont un peu ralenti, tandis que la Chine a légèrement accéléré et que les États-Unis ont quasiment mis les bouchées doubles. En 2020, 44 lanceurs ont décollé du sol américain, soit une progression de presque 50% par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. Ce chiffre est en grande partie dû à SpaceX ainsi qu'à l'arrivée à maturité de nouvelles entreprises du New Space. Le New Space a d'ailleurs particulièrement bien résisté à la crise. La faillite de OneWeb en mars aurait pu laisser imaginer que les capitaux allaient s'assécher et que de nombreuses startups spatiales allaient mettre la clé sous la porte. Il n'en est rien. Les milliards ont continué à couler vers le secteur spatial tout au long de 2020. SpaceX a par exemple levé 1,9 milliard de dollars, tandis que Relativity Space a récolté 500 millions pour développer ses fusées imprimées en 3D. Même constat en Chine, où LandSpace et iSpace ont récolté l'équivalent de 175 millions de dollars chacune. Il y a eu de très nombreuses levées de fonds moins impressionnantes partout autour de la planète. Ce qui fait que les projets de lanceurs, de constellations et autres infrastructures spatiales n'ont jamais été aussi nombreux. Du côté des constellations justement, le déploiement de Starlink a été fortement accéléré, avec plus de 830 satellites lancés en 12 mois. Ce qui a soulevé de nombreuses interrogations sur les risques de collision et de pollution lumineuse. Le service d'Internet par satellite est d'ores et déjà disponible en bêta pour certains pays. Du côté des agences spatiales, l'année a aussi été très chargée malgré la pandémie. Elle s'est illustrée cet été par une vague de lancements vers Mars. 3 sondes ont quitté la Terre pour la planète rouge. Une mission américaine qui emporte le rover Perseverance, une mission chinoise qui transporte elle aussi un rover et un orbiteur conçu par les Émirats Arabes Unis. Ces missions arriveront à destination dans un gros mois, et c'est bien entendu un événement que nous suivrons sur la chaîne. L'Agence spatiale européenne a pour sa part lancé la mission Solar Orbiter en février. En juin 2020, elle a permis de prendre le cliché le plus proche du Soleil jamais réalisé. Elle va continuer à se rapprocher de notre étoile dans les années qui viennent, tout comme sa consœur américaine Parker Solar Probe. Sur les derniers mois de 2020, l'agence spatiale chinoise a réalisé une impressionnante mission lunaire du nom de Chang'e 5. Elle a permis de ramener sur Terre les premiers échantillons lunaires depuis la fin de la course à la Lune. Un sans faute qui démontre encore une fois que les ambitions lunaires de la Chine doivent être prises tout à fait au sérieux. Sur le plan du vol habité, 2020 est une année à marquer d'une pierre blanche, surtout côté américain. 9 longues années après la fin des navettes spatiales, les États-Unis ont retrouvé un accès indépendant à l'orbite pour leurs équipages. Le vaisseau Crew Dragon de SpaceX a volé à 2 reprises avec des humains à bord. L'une des capsules fabriquées par l'entreprise est en ce moment même amarrée à l'ISS. L'entreprise d'Elon Musk a par ailleurs fait avancer le développement de son futur vaisseau géant, le Starship, avec un vol atmosphérique jusqu'à une altitude de 12,5 km. Les autres vaisseaux habités américains en développement, Orion et le CST son Starliner, ont pris trop de retard pour décoller en 2020. Même chose pour le SLS et Ariane 6 qui visent maintenant un baptême du feu en 2021 ou 2022. En plus de Chang'e 5, l'année a été marquée par de nombreuses actualités lunaires. L'Europe, le Japon et le Canada ont cimenté leur participation au programme Artemis, l'initiative américaine qui vise à ramener des humains sur la Lune. La NASA a pour sa part sélectionné 3 projets d'atterrisseurs lunaires et a commencé à les financer. La fabrication des premiers modules de la LOPG a été lancée. Bref, Artemis est véritablement mise en route. Pour le moment, le projet tient toujours, même s'il pourrait être largement modifié par le changement de locataire à la Maison Blanche. C'est une actualité qu'on suivra avec intérêt en 2021. En astronomie et astrophysique, l'année a aussi été chargée. Une observation en ondes gravitationnelles réalisée en 2019 mais publiée en 2020 a permis d'assister à la naissance d'un trou noir de 142 masses solaires, ce qui permet de confirmer l'existence des trous noirs de masse intermédiaire. Des objets dont l'existence était soupçonnée depuis longtemps, mais qu'il avait été jusqu'ici impossible de détecter. C'est un peu le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires issus de la mort d'une étoile massive et les trous noirs supermassifs qui sont nichés au centre des galaxies. Autre mystère probablement résolu en 2020, l'origine des FRB. Ces signaux radio très courts ont été découverts pour la première fois en 2007, sans qu'un phénomène physique n'ait pu leur être associé. Au cours des années suivantes, de nombreux sursauts radio rapides ont été observés, certains simples et d'autres répétés. En avril 2020, un magnétar situé dans la Voie lactée a pu être associé pour la première fois à l'un de ces sursauts, ce qui résout au moins en partie l'origine du phénomène. Il reste possible que tous les FRB ne puissent pas être attribués à des magnétars, mais certains d'entre eux au moins le sont. D'autres signaux similaires pourront peut-être être assimilés à une source dans les années qui viennent. Beaucoup plus près de nous, Vénus a beaucoup fait parler d'elle avec la détection présumée de phosphine dans son atmosphère. Ce composé chimique est considéré par certains chercheurs comme un marqueur biologique fiable, c'est-à-dire que sa présence serait explicable par la vie. La détection est cependant loin de faire l'unanimité dans la communauté des planétologues, et rien n'interdit non plus une origine non biologique. Cette annonce a cependant au moins eu le mérite de propulser Vénus au centre de la scène, ce qui lui vaudra peut-être de nouvelles missions d'exploration. Du côté de Mars, les données radar de Mars Express ont permis d'identifier ce qui ressemble à 3 lacs souterrains au niveau du pôle sud, dans la même région où un premier lac avait été identifié en 2018. Là aussi, c'est une découverte qui fait encore débat. Il est difficile de déterminer quelle source de chaleur permettrait à une eau, même extrêmement salée, de rester liquide dans ces conditions. Contrairement à Vénus, il sera très difficile d'aller vérifier sur place, puisque les lacs en question, s'ils existent, sont enfouis à 1,5 km sous la surface. La recherche sur les exoplanètes a vu l'observatoire TESS boucler sa mission primaire de 2 ans. Ce qui lui a permis d'identifier 66 nouvelles exoplanètes et plus de 2000 candidates. Il a notamment permis d'identifier TOI 700D, une exoplanète de taille terrestre évoluant dans la zone habitable de son étoile. Sa mission est prolongée jusqu'à septembre 2022 au moins, ce qui devrait permettre de multiplier les découvertes. le spectrographe SOFIE, situé à l'Observatoire de Haute-Provence, a pour sa part permis de découvrir un système composé d'une super-Terre et de 4 mini-Neptunes, qui orbitent autour d'une étoile similaire au Soleil, à 88 années-lumière de nous. Tandis que Hubble a imagé une exoplanète gravitant à très grande distance de son étoile. Pour finir sur le plan de la chaîne, vous avez été plus de 100 000 à vous abonner en 2020, et vous avez cumulé 2,7 millions d'heures de visionnage. Grâce à votre enthousiasme et votre fidélité, nous avons pu lancer deux gros projets au cours des 12 derniers mois. Nous avons écrit notre premier livre qui s'intitule 2040 tous dans l'espace et qui sera disponible en librairie le 9 février. C'est un ouvrage de prospective qui explore les nouvelles tendances spatiales pour essayer de comprendre ce qui nous attend dans les deux prochaines décennies. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander grâce aux liens qui sont dans la description. Nous avons aussi pu mettre au point, en collaboration avec le studio DTDA Games, un jeu de société sur la thématique du New Space, nommé Apogée, qui sera lui livré en avril de cette année. Si là aussi le projet vous intéresse, les précommandes sont à nouveau possibles grâce au lien qui se trouve dans la description. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce bilan. Il est maintenant temps de tourner les yeux vers l'avenir, ce que nous ferons dès la semaine prochaine dans DNDE. Je vous invite bien évidemment à faire part de vos questions et remarques dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 17 janvier. Je vous invite par ailleurs à consulter la description pour retrouver nos sources, des liens vers nos podcasts et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.